Vous écoutez
RMC. RMC, la boîte à souvenirs.
Éric Dimeco.
Salut à tous, c'est Éric Dimeco. J'ai 56 ans, je suis un ancien joueur de foot professionnel. Je suis à jamais le premier, parce que j'ai été champion d'Europe en 93. Mais vous ne le savez peut-être pas, j'ai été capitaine 2 fois de l'équipe de France. Alors ensemble, nous allons ouvrir ma boîte à souvenirs.
RMC,
la boîte à souvenirs.
Bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la boîte à souvenirs, votre nouvelle émission durant les fêtes de Noël sur RMC avec les membres de la Dream Team de 20h à 21h. Et aujourd'hui, nous sommes avec Éric Dimeco. Salut Éric.
Salut JC, salut à tous.
Alors durant une heure, nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler tes grands moments, tes cicatrices, ton image aussi, parfois tronquée, en tout cas tu nous en parleras. Ton boulot est très simple, face à toi, une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur au fil de notre discussion.
Jolie boîte, hein.
Tu vas pouvoir les tirer au sort.
Ah, la production quand même. On voit qu'il y a des moyens. Hein.
Mais oui, mais tu connais RMC.
Ah voilà, ça rigole pas là.
Et donc forcément, on est à la radio, nous n'avons pas l'image.
Aller acheter une valise d'une grande marque connue dans le monde entier pour aller tirer 4 petits papiers, c'est beau, hein.
Dessus, un mot, une date, un moment que tu vas bien sûr nous raconter dans cette émission. Comment tu te sens d'ailleurs avant de débuter ta boîte à souvenirs ?
Bah écoute, comment dire, impatient parce que je sais pas ce qui m'attend finalement. Et puis on est à l'arrivée, on n'est plus habitué à parler de nous, quoi. On est là pour parler des autres généralement. Et des fois on n'est même pas gentil avec les autres et tout, donc c'est sympa de peut-être faire un petit retour sur la carrière ou d'entendre des choses désagréables ou agréables, pourquoi pas, on va voir.
Il y aura évidemment des surprises dans cette émission, tu ne connais rien.
Alors je n'aime pas les surprises.
Tu ne connais rien de notre conducteur, je te laisse tirer le premier papier de cette émission, la boîte à souvenirs avec Éric Dimeco.
Alors on trifouille, on trifouille, on trifouille, hop, et voilà. 26 mai 1993.
26 mai 1993, à jamais le premier papier, visiblement.
Tu as
la main heureuse sur ce papier, c'est donc. C'est quelle date, ça ?
Ouais, bah, c'est la date de la victoire en Ligue des Champions avec l'OM, donc le 26 mai 1993, qui est resté du coup gravé dans la mémoire, dans nos mémoires, et puis surtout dans la mémoire des supporters, puisque c'est. C'est une victoire collective, personnelle aussi, puisque quand on fait cette carrière, on a envie d'aller gagner ce genre de titre. Alors on dit toujours, il faut un gros collectif pour aller le gagner, c'était le cas à l'époque. Mais on avait surtout derrière nous toute une ville, toute une région, et on l'a vu très rapidement après la victoire, quoi.
Nous sommes à Munich, au commentaire, Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, OM, Milan AC.
Amédi Pelé pour le tirer. Boli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau.
But de Boli. But de Basile Boli sur ce corner.
Eh bien, c'est le moment idéal.
Quel coup de tête de Basile.
Alors que l'on voit des images visiblement de la Canebière ou en fait dans un bar de Marseille.
Extraordinaire coup de tête de mon Basilou.
Monsieur Rotlisberger regarde son chrono.
Et c'est fini! L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions. La malédiction, 38 années est passée. Un club français a enfin gagné une Coupe d'Europe. C'est l'Olympique de Marseille, vainqueur du Milan AC par 1-0. Quelle soirée! Quelle soirée, mes amis!
Il te reste quoi de cette finale, Eric?
Bah, il reste tout finalement, parce que moi je suis conscient par exemple que, et même si je suis venu par hasard, bosser dans les médias, ce titre-là représente quelque chose, parce que quand on met un mec à l'antenne pour parler de foot, dire qu'il a été champion du monde ou champion d'Europe ou gagner la Ligue des Champions, ça apporte une crédibilité supplémentaire dans un premier temps. Après, quand tu dis des conneries, tu peux être champion de ce que tu veux, tu dis des conneries, tu vois. Et puis surtout, c'est... ça m'arrive de croiser des gens qui ont mon âge ou des papas qui sont avec un gamin qui a 10 ans, 11 ans, 12 ans, donc qui ne nous connaît pas. Et pour nous situer, ben voilà, c'est tiens, il a gagné la Ligue des Champions. Voilà. Et le petit, du coup, il a les yeux qui s'éclairent parce que pour lui, ça représente quelque chose, parce qu'il la voit régulièrement à la télé aujourd'hui.
Si on se remet dans le contexte de l'époque, quelques jours avant, il y a l'affaire VAOM. On en reparlera peut-être dans cette boîte à souvenirs un petit peu plus tard. C'était facile de préparer ce match, justement dans ce contexte particulier, autour de la polémique, mais aussi autour d'un événement absolument incroyable pour une ville et pour le football français.
après le match, ce fameux match de Valenciennes, où finalement, nous, cette affaire-là, elle sort et elle nous revient en pleine figure après la finale de la Coupe d'Europe, mais avant cette finale de Munich, on parlait pas trop de l'affaire VA. Elle avait été mise de côté volontairement, peut-être par les instances ou par les gens qui étaient au courant de ce qui s'était passé, et on l'a préparé de la meilleure manière du monde, finalement, parce qu'on est arrivé à 100% sans pression ce soir-là. Ouais.
OM93, c'est une équipe soudée, encore aujourd'hui. C'est des copains, c'est des amis. Est-ce que tu te souviens à l'époque de l'atmosphère aussi entre vous ?
Non, alors, c'est clair que... Moi, j'ai coutume de dire que l'équipe de 93, c'est pas la meilleure équipe dans laquelle j'ai joué. Je pense que la meilleure équipe dans laquelle j'ai joué, c'est l'équipe de 90 avec Waddle, Francescoli, oui, JPP bien sûr, et donc pour moi ça c'était la plus belle équipe. Par contre, celle de 93, tu me dis demain tu vas à la guerre, tu prends quelle équipe? Je prends celle-là, quoi. Il y avait on était capable de mourir pour le partenaire sur le terrain, quoi. Et d'ailleurs, on était une équipe physique emmerdante à jouer, compétitive au possible, que la victoire qui comptait. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur le beau jeu, etc. Nous, c'était le dernier de nos soucis. Nous, on voulait laminer l'adversaire, quoi. Et ce qui reste aujourd'hui, c'est on n'est pas tous amis, parce qu'il n'y a pas que des amis dans le foot. Mais par contre, tu as fait un fait de, il y a un fait d'armes, quoi. Tu es frère d'armes. Voilà, on a fait un truc ensemble qu'on n'oubliera jamais.
Frère d'armes, notamment. L'un des frères d'armes, il s'appelle Jean-Christophe Thomas, et il se souvient de ton apport exceptionnel dans ce groupe de Marseille.
Je pense que c'était un rouage essentiel à la vie d'un groupe à Marseille. Et je pense que Eric a contribué fortement aux excellents résultats de Marseille à un moment donné, parce qu'il était le lien entre les supporters et puis le club lui-même.
Il faut bien comprendre que tu es le seul minot de la bande, hein. Le seul qui est arrivé au début des années 80 et le seul qui va conquérir tous les titres avec l'OM. Donc c'est vrai que ton apport est essentiel dans cette équipe.
C'est vrai que j'ai une histoire particulière avec ce club-là, parce que quand à 16 ans, je dois choisir un club pour rentrer dans un centre de formation, j'ai d'autres possibilités qui aurait été peut-être plus judicieuse pour réussir, parce que l'OM n'a jamais été un club réputé formateur. Et j'ai fait le choix du cœur en allant à l'OM en 80, alors que le club venait de descendre en deuxième division, que Mondo disparaît. Et j'ai vu ces garçons-là, année après année, partir du club, parce que c'était dur quand tu étais du Serail, parce que c'était beaucoup de garçons qui étaient issus de Marseille et du centre de formation. Et donc, je les ai vus partir les uns après les autres. Mais je me suis retrouvé, un petit peu porte-drapeau de mes potes de cette époque-là. Et puis surtout, le seul local de cette équipe-là. Et moi, si tu veux, mon rôle principal, premier dans une saison, c'était d'aider à ce que les nouveaux se sentent bien à Marseille. Et donc, pour Jean-Christophe, ça a été le cas, mais je pense à Marcel Desailly, Jean-Jacques Edely, et puis il y en a d'autres bien avant. Ben je les sortais, on partait, je leur montrais les bons restos, les plages, les sorties, les endroits où aller boire des coups, parce que c'était bon pour nous aussi, quoi. C'est-à-dire un garçon qui galère pour s'intégrer, c'est pas bon pour l'équipe. Et donc ça, c'est vrai que ça, j'adorais faire ça, ouais.
Et on comprend mieux pourquoi le lendemain, vous allez tous forcément au Vélodrome, le lendemain de ce 26 mai 93, pour montrer cette coupe aux grandes oreilles à tout le public marseillais. On comprend mieux pourquoi Éric Dimeco est accueilli comme ça.
16 joueurs débarque sur une autre planète. Mais le plus bel hommage a sans doute été rendu à l'un des leurs, Dimeco, le Marseillais de l'équipe. De la Division 2 à la Coupe d'Europe, il a tout connu dans le club de ses débuts. Et à Marseille, on aime la fidélité.
Tu te souviens de qui chante Dimeco?
Baz, non.
Non. Non, non, Baz a pris le micro, ça c'est vrai. Il a même rangé le micro.
Non, il a mangé,
pas Basile Boli. C'est Didier Deschamps.
Ah, c'était Didier.
Exactement.
D'accord. Ouais.
Cri Dimeco.
Bah, c'est un moment, là, franchement, c'est une des rares fois où j'ai failli perdre mon flegme légendaire, dirait-on. ce fameux accueil au Stade Vélodrome le lendemain, petit tour d'honneur avec la Coupe, et là, on est réunis autour du rond central et on passe à tour de rôle. présenter la coupe aux supporters. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ou j'ai eu un rapport particulier avec les supporters par rapport à mon histoire au club et par rapport à mon jeu aussi. Il y avait Bernard Tapie, Jean-Pierre Bernès, Jean-Louis Lovreau qui étaient là et qui m'ont tenu parce que je sentais plus mes jambes. Je chialais comme un môme et puis surtout j'ai failli tomber dans les pommes parce que je sentais plus mes jambes. Trop d'émotions, trop de trucs là sur ce coup-là. Ouais.
Ce moment où tu es dans le rond central, tu lèves la coupe. Mm-hmm. Si vous avez l'occasion, évidemment, chers auditeurs, de regarder ces images, Bernard Tapie vient t'enlacer, te soutenir, te prendre dans ses bras. Jean-Pierre Bernès mm-hmm. également arrive à son tour. Jean-Pierre Bernès avait envie de te dire quelque chose et de se rappeler en tout cas de cette histoire. Jean-Pierre Bernès.
Réussir à Marseille, c'est très difficile. Et réussir à Marseille quand on est Marseillais, c'est encore plus difficile. Mais Eric, avec une telle personnalité, un tel amour pour ce club, qu'il a vraiment été exemplaire tout au long de sa longue carrière à Marseille. Et c'est quelqu'un qui était identifié à Marseille. Et je me souviens de cette image toujours quand en 93, on revient après la finale gagnante contre Milan, on revient sur la pelouse avec la Coupe d'Europe et qu'Éric était vraiment très ému et qu'il était tombé dans nos bras de Bernard Tapie et de moi-même en pleurs parce qu'il savait ce que ça représentait pour lui et pour Marseille.
Oui, oui, j'en ai les frissons là parce que Jean-Pierre, alors on connaît le personnage des années Tapie puisqu'il est devenu aujourd'hui dans le football, mais moi j'ai connu Jean-Pierre justement à l'époque des Minots, donc en 81 quand le club avait fait déposer le bilan que tous les professionnels avaient été licenciés et qu'on avait fini la saison. Il y avait un comité de survie là qui s'était créé autour du club avec des chefs d'entreprise qui avaient mis un petit peu d'argent pour qu'on puisse finir la saison, et Jean-Pierre c'est un amoureux fou de l'OM aussi qui rentre comme ça au club, quoi. Et c'est-à-dire, il venait en déplacement, il nous portait les sacs, et puis petit à petit, par ses compétences, parce que c'est un garçon qui avait fait de grosses études et qui était un amoureux du foot, mais un connaisseur du foot, et il est arrivé jusqu'à devenir bras droit de Bernard Tapie, et devenir aujourd'hui un des managers qui compte dans le foot, mais on a. Et donc lui a connu toutes les étapes de ma carrière, c'est-à-dire les bons moments et les mauvais moments, parce que une fois il a fallu qu'il me reçoive dans son bureau pour me dire bon mais Eric, il faut que tu partes parce que on compte pas sur toi.
Eh oui, on en reparlera peut-être dans la boîte à souvenirs avec Eric Dimeco. En tout cas, on voulait se rappeler forcément avec toi de ce moment assez incroyable et unique dans l'histoire du football français, cette Coupe des clubs champions. Autre papier dans la boîte à souvenirs avec
un
Eric Dimeco.
Un trifouille
sur RMC.
Oh putain, d'accord, on passe
du coq à l'âne.
12 juillet, non, pas du coq à l'âne, mais d'une émotion à l'autre. 12
juillet 1998. 12 juillet 98. On va réécouter. Thierry Roland, France-Brésil, forcément.
C'est fini, Thierry.
Et c'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0. Deux buts de Zidane. Un but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Oh! Oh, c'est pas vrai!
Et si, c'est vrai, on adore écouter ce moment. On se rappelle de cette phrase donc, de Thierry Roland. Oh, quel pied! Oh putain! Oh, quel pied au putain pour Eric Dimeco ce jour-là, ce soir-là?
Ah, mais alors, c'est un moment très, très, très particulier, douloureux pour moi. J'ai eu du mal à me parler de ce moment-là parce que je n'en ai pas parlé souvent en plus, et c'est bien d'en parler comme ça, un peu tranquillement, parce que je viens d'arrêter ma carrière. Moi, je finis à Monaco, donc le 30 juin, hein, puisque les contrats finissent le 30 juin.
12 jours avant cette finale.
Exactement. Et je déménage dans ma maison à Gémenos, à côté de Marseille, avec femmes et enfants. Et donc, il était hors de question pour moi que je sorte ou que j'aille chez quelqu'un voir cette finale parce que j'étais dans des sentiments partagés. Et à la fin du match, quand il gagne, je chiale. Mais entre la joie et la tristesse, parce que tous ces garçons-là, je les ai vus arriver, parce que j'ai fait l'Euro 96 avec eux, que Aimé Jacquet me rappelle après la catastrophe de la Bulgarie pour finir une saison qui était compliquée, puis finalement il reste. Et c'est lui qui amène cette équipe-là au titre de champion du monde. Il m'a fait aimer, m'a fait confiance, il m'a fait fait revenir, il m'a donné deux fois le brassard, et j'ai vu arriver Zizou. Bon, moi j'étais là avec, il y avait déjà Didier, tout ça, Didier Deschamps, Marcel Desailly.
Mais ce sont tes potes, ce sont tes potes d'équipe de France.
C'est mes potes, mais si tu veux, et donc, et en plus c'est que des bons mecs, vraiment, et donc j'étais heureux pour eux, mais malheureux dans le sens où tu te dis, putain, mais à un an près, tu vois, le papa Dimeco, il se serait retenu un an, tu vois, sauter sur maman tout de suite. Mais oui, un an, deux ans près, je suis dans l'aventure, quoi, parce qu'à l'époque, Aimé me faisait confiance jusqu'en 96 et que ça a été la fin, quoi. Et donc, je chialais. Ça a été lourd, quoi. Et mon ex-femme était arrivée dans le salon et j'étais une larve parce que j'étais passé à côté d'un truc merveilleux parce que je savais que leur vie allait changer. Et d'un autre côté, j'étais content pour eux parce que les mecs vivaient le rêve de tout joueur de foot, quoi. Et puis il y avait que des bons mecs dans cette équipe là pour moi. Voilà, donc c'est une date très très particulière, un moment très particulier parce que vécu dans une situation particulière, quoi. Tout seul dans ma maison qui n'était pas finie. Ouais.
Tu pleures sur ta fin de carrière également?
Ah, pas du tout. J'ai eu la chance d'être blessé finalement et d'arrêter sur blessure ma carrière. Parce que je pense que quand on arrête et qu'on sent qu'on peut encore jouer, je pense qu'on peut être aigri. Je connais plein de copains, de partenaires ou d'anciens adversaires que j'ai pu croiser ou que j'entends et où on sent qu'ils n'ont pas fait le deuil de leur carrière parce que c'est violent, arrêter sa carrière, ne faire que ça de 16 à 35 ans et du jour au lendemain tu tombes dans l'anonymat, il faut que tu fasses autre chose, et voilà. Moi, j'ai eu deux chances, c'est que pendant deux ans, j'ai galéré parce que je me suis fait opérer six fois d'un genou. Et donc, je pouvais plus jouer. C'est-à-dire, le jour où je me suis arrêté, jouer au football, c'était déjà difficile pour moi. Et ensuite, j'avais préparé ma reconversion depuis 95, puisque moi, dès que j'ai arrêté, j'étais adjoint au maire sur les listes Jean-Claude Godet et Renaud Muselier. Je suis revenu à Marseille, j'ai enchaîné de suite. C'est-à-dire que quand je suis revenu, mi-août, fin août,
j'ai attaqué. Il n'y a pas de petite mort.
Ma petite mort, elle a été lente finalement, elle a duré deux ans, quoi, parce que j'ai senti, quand j'ai commencé à me faire opérer une fois, deux fois du genou à partir de la fin 96, là. Et donc, je m'y suis préparé, quoi, voilà. C'est pas violent comme le mec qui, du jour au lendemain, il s'arrête et puis il va plus à l'entraînement, quoi. Voilà. Donc j'ai eu entre guillemets cette chance-là et je l'ai pas vécu cette petite mort-là.
Autre papier dans la boîte à souvenirs avec Eric Dimeco.
J'espère que c'est pas une date parce que après j'ai Alzheimer, je me souviens pas de. Ah ouais, ah non.
Le boucher. Le boucher.
Le boucher.
Pourquoi le boucher?
C'est parce que vous connaissez mon boucher, il a quelque chose à me dire.
Pas
Et parce que j'aime la viande maturée.
On connaît très bien ton boucher.
Ah oui, merde.
Et c'est peut-être
toi. Il m'a pas laissé le petit mot, mince.
L'image du boucher,
ouais, ouais.
L'image et le son également. Nous sommes le 18 décembre 92, peut-être le match qui caractérise peut-être le mieux cette image écornée ou pas de toi. On écoute Thierry Gilardi, Charles Bietri au commentaire, Paris Saint-Germain, Marseille 92.
Lacerre face à Mehdi Pelé, Fournier face à Dimeco.
Oh là là, Dimeco.
Oh là là. Ce sera un carton jaune pour Eric Dimeco. Fournier qui emmène son ballon. Tacle de Dimeco et de Saïd qui met en touche. Oh, Dimeco, il est sous le coup.
À chaque fois que Dimeco va intervenir maintenant, il y aura un doute. Et Michel Girard lui-même vient d'intervenir avec visiblement beaucoup d'autorité sur Dimeco. Oh là là, Dimeco, il y est.
Oh oui.
Dimeco est au vestiaire, à mon avis.
Et non, il ne sera pas au vestiaire. Il restera sur le terrain.
On a eu passé pour Thierry Gilardi. Et puis j'embrasse Charles Bietri qui m'a lancé dans le métier de commentateur. Et ce match, c'est il faut le voir pour le croire parce que c'était. Alors il y avait une grosse rivalité entre le PSG et l'OM à l'époque. Et eux, ils avaient une grosse équipe et puis ils avaient une équipe de guerriers aussi. Et donc c'est vrai que moi j'ai focalisé l'attention sur cette équipe qui était très physique. Et puis c'est vrai que moi, quand je rentrais sur le terrain contre Paris, les gens ne me parlaient que de ça et je me sentais investi d'une mission particulière sur ces matchs-là, c'est-à-dire que il fallait qu'on les batte, mais il fallait qu'on leur fasse mal, quoi. Voilà. Et donc moi,
on a écouté le son, on entend beaucoup Laurent Fournier dans l'histoire, on a l'impression qu'à chaque fois c'est toi qui le sèche.
Alors là, non, mais sur ce match-là, parce que là, il faut la regarder, la vidéo, c'est rigolo, parce que le premier ballon que je touche, je fais le contrôle, il arrive, il me met le pied au genou, donc il me fait, et puis c'est vrai que là, après, j'ai les fils qui sont touchés. Et là, je fais un tacle. C'est-à-dire que quand tu regardes ce tacle aujourd'hui sur Internet, même moi, ça me fait peur. Et tu te dis, mais comment c'est possible que le mec, il prenne pas un rouge sur un truc comme ça, quoi. C'est un truc qui ne se voit plus, quoi. Même à l'époque, il se voyait peu. Mais on était un peu dingo, ouais.
Allez, la boîte à souvenirs, ça continue. On revient dans quelques instants avec Eric Dimeco sur RMC.
RMC, 20h-21h.
La boîte à souvenirs.
De retour sur RMC avec Eric Dimeco comme invité dans la boîte à souvenirs. Eric, nouveau papier pour toi, tu peux piocher dans la boîte à souvenirs.
VAOM.
VAOM, nous sommes le...
Et là, il fallait me parler à un moment donné.
20 mai 1993, et cette affaire évidemment qui...
Oh putain, la musique colle tue, quoi.
À l'Olympique de Marseille. On va réécouter un petit sujet de l'époque pour bien comprendre dans quel contexte tu es et l'Olympique de Marseille est.
L'affaire VAOM, ou comment un joueur inconnu va faire vaciller un géant du football français. Le 20 mai 1993, Valenciennes reçoit l'OM. Sur le terrain, Jacques Glasman se bat comme un lion. À la mi-temps, le libéro explose et accuse les dirigeants marseillais. Pour la première fois, la justice est saisie. L'instruction est menée au pas de charge par le juge Béfi. Deux joueurs valenciennois, Christophe Robert et Georges Bourouchaga, reconnaissent avoir touché 250 000 francs, somme retrouvée dans un jardin près de Périgueux. L'argent a été versé à Marie-Christine Robert par Jean-Jacques Edely. Le joueur marseillais nie tout en bloc, puis après 15 jours de détention, reconnaît les faits et désigne le directeur général de l'OM.
Tu te souviens bien de ce match, Eric ?
Et comment ? Ben oui, oui, puisque c'était 3 ou 4 jours avant la finale de la Ligue des Champions. J'ai même souvenir, et c'est pour ça que cette histoire est rocambolesque finalement, et que on n'y a pas cru dans un premier temps, et puis qu'après, y a eu un procès, et les choses ont été avérées, mais j'ai souvenir même de la causerie d'avant-match où Bernard Tapie nous explique, il a tellement peur qu'on pense qu'à la finale et qu'on joue pas ce match-là, qui nous dit, je vous préviens, les 11 qui finissent le match commenceront le match à Munich, de peur que, tu sais, le mec, la fausse blessure pour sortir et pour se reposer pour le match, parce que on joue le titre contre Paris et que ce match-là était hyper important contre une équipe qui allait descendre, qui était programmée pour descendre, alors à la mi-temps on ne sait pas, mais beaucoup d'agitation dans le vestiaire. Normalement, un vestiaire à la mi-temps, c'est calme, il se passe rien, on récupère, le coach parle et tout. Et puis là, des gens sortaient, rentraient, on voyait l'inquiétude. C'est dingue comme les émotions peuvent filtrer quand c'est comme ça. Et on revient sur le terrain. Et là, l'arbitre vient voir Didier pour lui parler. Et Didier vient vers nous et nous dit, Valenciennes a porté réclamation parce que ils disent que Alain Boxy, qui avait marqué le but en première mi-temps, a fait main. Donc bon, on n'est pas des experts de la règle, mais c'était bizarre, quoi. Une réclamation, c'est de suite, quoi. Tu fais pas ça à la mi-temps, tu vois. Donc, et c'est comme ça qu'on reprend la deuxième mi-temps. Et on finit le match. Et là, très rapidement, en revenant au vestiaire, on sent que personne n'est content alors qu'on vient de gagner et qu'on s'approche de plus en plus du titre. Et y a de suite le bruit qui court comme quoi, finalement, ils ont porté réclamation contre une éventuelle corruption. Ça ne va pas chercher plus loin à ce moment-là, mais on sent qu'il s'est passé un truc. Alors de là à se douter que ça va être l'histoire qu'on a connue derrière, non. On n'en a pas entendu parler le lendemain, le surlendemain. Nous, dans nos têtes, c'était un épiphénomène ou une manière pour Valenciennes de récupérer des points ou d'essayer de se sauver. Et c'est qu'après la finale de la Ligue des Champions, ou même après le match de Paris qui avait lieu une semaine après, où on s'est rendu compte que cette affaire-là...
De l'ampleur.
Ouais, de l'ampleur et de ce que ça allait être, de ce que ça allait devenir. Parce que cette affaire-là, avec le recul aujourd'hui, si on la regarde bien... parce que là, si on se souvient bien, il y a des gens qui sont allés en prison, il y a des gens qui ont été interdits d'exercer, il y a un club qui a été sanctionné à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau européen, au niveau intercontinental. On n'a pas fait la Coupe intercontinentale, on n'a pas fait la Ligue des Champions derrière, on a perdu le titre. Enfin, je veux dire, ça a été quand on regarde aujourd'hui, on se dit, tiens, c'était quand même, ça a tapé fort, quoi. À un moment donné, oui, il y a eu faute, il y avait des sanctions à prendre. J'ai plus l'impression que c'était pour pas se faire casser des mecs que pour gagner Valenciennes, quoi. Voilà, c'est ça que...
Avec le recul, c'est ce que tu te dis, les dirigeants.
Je me dis ça, c'est les excuses que j'ai entendues pour se défendre à ce moment-là, et je trouve ça beaucoup plus crédible, quoi. Maintenant, la faute a eu lieu et il y a eu des gens qui ont été lourdement punis. Ouais.
Tous les ans, il y a de nouveaux témoignages qui apparaissent. À tous ceux qui pensent que Marseille n'a pas acheté que ce match-là, toi, le Marseillais pur souche, toi qui as gagné tous les titres avec l'Olympique de Marseille, toi, le minot, c'est quoi ta réaction ?
Ah ben moi, chaque fois, ça me blesse parce que c'est... Pour moi, quand tu dis ça, tu veux nier en bloc tout ce qui a été fait à l'époque et notamment le fait d'avoir gagné autant avec cette équipe qui a malgré tout montré la voie. Didier Deschamps le disait à la sortie de la finale en 98. Beaucoup de joueurs de cette équipe-là étaient passés par Marseille et ont appris cette volonté de gagner, cette hargne sur le terrain en passant dans ce club-là. Et donc, ceux qui croient ça, je les laisse dans leur croyance et voire dans leur naïveté, parce que tu ne peux pas faire demi-finale de Coupe d'Europe, finale de Coupe d'Europe, gagner à la Ligue des Champions, être un an ou deux ans de suite club numéro un, enfin dans le classement, tu sais, UEFA, des clubs numéro un. Comme ça, c'est pas possible. Ceux qui disent ça, c'est ceux qui essaient de dénigrer la performance de l'époque. Bon, mais parce qu'ils aiment pas l'OM, pourquoi pas, voilà. Après, que sur cet épisode-là, il y a eu faute, c'est avéré, il y a eu un procès, des gens ont porté plainte et des gens ont été punis. Et après, il y a des légendes, quoi. Voilà, il y en a qui s'engouffrent dans la légende. Et souvent, c'est pour cacher leur médiocrité. Donc, ça m'a longtemps énervé parce que je me sentais touché dans ma chair. Là, maintenant, c'est à un moment donné, je me dis, ceux qui ont envie de croire ça, continuez, quoi, il n'y a pas de souci, quoi.
Autre papier dans la boîte à souvenirs avec Eric Dimeco sur RMC.
Hop, c'est fait. Arsenal France, tiens, ah oui.
Arsenal France, drôle d'affiche.
Hein. Ah ouais, c'est rigolo de parler de ça.
C'est la première fois que tu es appelé en bleu.
Exactement.
En 1989 et le sélectionneur de l'époque s'appelle
Michel Platini.
Michel Platini, mais tu vas jamais disputer,
non.
Quand tu es appelé, tu vas jamais disputer ce match Arsenal France.
C'était déjà très rare à l'époque de faire un match de club contre une équipe nationale. Et il se trouve que l'équipe de France va faire un match amical à Ibéry contre Arsenal et que Michel Platini vient de prendre ses fonctions depuis quelques temps. Et il me surveille, je sais qu'il me surveille depuis un petit moment. Je viens d'être reconverti arrière-gauche au mois de juillet. Et à la fin de l'année, il m'appelle pour ce fameux match qui n'aurait pas compté comme une sélection parce que ça ne comptait pas quand tu jouais contre une équipe de club, mais qui était pour moi une marque de reconnaissance extraordinaire, quoi. Déjà Michel Platini qui t'appelle, donc c'est déjà un truc supplémentaire. Et en plus, goûter à l'équipe de France quand six mois avant tu penses que tu vas faire une carrière d'attaquant pourri en Ligue 2, quoi. Et Gérard Houillet, qui était l'adjoint de Michel Platini, nous fait faire une séance. On venait d'atterrir l'après-midi, le soir on se fait une séance dans le froid londonien et je me claque la veille du match et je peux pas jouer ce match-là. Et j'ai cru que le monde allait s'arrêter parce que tu te dis putain, mais plus jamais je serai appelé, quoi. Tu as raté tu vois, tu crois que ça s'arrête, quoi, dans ces cas-là.
Ça symbolise pas mal ton parcours en équipe de France. Tu as failli et tu n'as pas tout le temps joué. On se souvient que tu t'es blessé en 1991. Tu t'étais fait des croisés. Mm-hmm. Tu es revenu en janvier 92. Évidemment, dans cette optique de l'équipe de France, pourquoi pas de jouer l'Euro 92, ta première grande compétition avec les Bleus, mais tu es ignoré, ou en tout cas tu n'es pas appelé par Gérard Houillet. Est-ce qu'aujourd'hui tu as la réponse, ou en tout cas est-ce qu'après ta carrière tu as eu la réponse à cette question ?
J'ai pas l'explication, ou j'ai l'explication, mais elle n'est pas importante finalement, parce que moi je pars du principe que un sélectionneur, il doit faire une équipe, la meilleure équipe possible à son idée, et qu'il a des joueurs qu'il aime et des joueurs qu'il n'aime pas. Et il fait des choix en fonction de ça. Et si toi tu fais ton équipe de France aujourd'hui, que moi je fais mon équipe de France, elle sera pas la même. Et donc j'ai toujours été fataliste par rapport à ça. Y a une raison, c'est qu'il y avait une grosse rivalité entre le PSG et l'OM à l'époque, qui avait plombé le vestiaire de l'équipe de France et qui a même plombé la qualification en 94, je pense que...
Il voulait peut-être pas en rajouter, c'est ça.
Voilà, et que moi, j'étais quand même celui qui mettait la merde sur ces matchs-là, j'étais quand même celui qui mettait la belle merde, donc je comprends à la limite qu'à un moment donné, voilà. Par contre, c'est vrai que être rappelé par Aimé Jacquet, qui prend la relève de
Gérard Houillet. Pas si vite, parce que je te parle de Gérard Houillet, on va parler d'Aimé
Jacquet. D'accord, Gérard. Non, instants, mais j'en ai jamais voulu. J'en ai parlé un jour avec lui, mais parce que j'aurais aimé qu'il me dise, mais...
Tu sais quoi, on lui a posé la question également à Gérard Houillet. Pourquoi ? Pourquoi donc ne pas prendre ce Éric Dimeco en 92 pour l'Euro ? Je crois qu'il n'a pas vraiment la réponse, ou il n'a pas vraiment voulu nous le dire.
Ouais.
En tout cas, je te propose de l'écouter.
On en parlera après.
Et on en parle après.
parce qu'on est passé, je crois, dans un système à 4. Puis celui qui a pris sa place après, c'était Lizarazu, je crois, dans le même rôle au départ, et ensuite dans un système à 4. Peut-être que Lizarazu était plus adapté, je ne sais pas. Je ne me souviens plus. Enfin, vraiment, il n'y avait pas de. J'ai plutôt un très bon souvenir de lui. Il était adorable avec tout le monde. Hein. C'est quelqu'un qui est très, très convivial, très social. Ouais.
Un bon souvenir de toi, mais c'est vrai qu'il ne t'a jamais pris en bleu.
Oui, mais c'est pour ça que... Non, mais après, c'est demander des explications à un sélectionneur qui finalement n'a pas en donné ou qui a ses propres raisons. Et Gérard... qui était un entraîneur qui aimait imaginer des séances d'entraînement toujours, il fallait beaucoup réfléchir, qui faisait appel à, et donc on adorait le chambrer et tout. Donc moi j'ai jamais eu de soucis avec lui et je reste persuadé parce que son explication elle est pas bonne, parce que au contraire moi je pense que vu mes qualités j'étais parce que j'étais concurrence avec Lisa, mais après quand Aimé était là un peu moins, quand Gérard était là, puisque Manu Petit a joué arrière gauche, il cherche une excuse qui même n'a pas lieu d'être et qui n'est pas la bonne, parce que Lisa était... Moi, je pense qu'il était plus fait pour jouer dans un système à 5 et moi dans un système à 4, parce que je pense que défensivement, j'avais plus de qualité que lui, qui en avait des meilleurs offensivement que moi. Donc voilà, on se ressemblait pas beaucoup à ce niveau-là. Donc et puis à la limite, c'est pas grave, quoi. Voilà. Moi, j'ai eu ma dose, peut-être pas assez, d'équipe de France, parce que c'est un honneur de porter le maillot de l'équipe de France. Moi, quand on me demande aujourd'hui, je dis ouais, j'ai que 23 sélections, mais j'ai été 23 fois titulaire. C'est important et j'ai eu deux fois le brassard. Voilà, ça suffit à mon bonheur.
Et autre chose, tu es invaincu avec les Bleus.
Parce oui,
que
aussi
23 sélections, 23 fois titulaire, 18 victoires, 5 nuls. Alors après l'épisode Gérard Rouillet, Aimé Jacquet fait appel à toi pour préparer l'Euro 96, deux fois capitaine avec Aimé Jacquet. Et pourtant l'Euro 96 que tu vas disputer, ça se passe mal. Dès le premier match,
tu es
titulaire sur le premier match, et après ?
Ben ouais, disparition. C'est, là par contre, c'est une incompréhension qui m'a taraudé pendant un long moment. Sans en vouloir à Aimé, parce que il m'a relancé, parce que j'adore l'homme, l'entraîneur, je me suis éclaté, on a passé 2 ans extraordinaires. Mais c'est vrai que je n'ai jamais compris ce qui s'est passé, puisque je répète tes stats et tes propos. Dans la période de qualification pour aller à l'Euro 96, elle est compliquée. Et on a un match en Roumanie qui est une grosse équipe à l'époque, qui sort d'une superbe Coupe du Monde avec Hadji et toute la clique là. Et il me donne le brassard pour aller là-bas dans un match qui est le match de la dernière chance, quoi. Et on sait que ça va être un coupe-gorge, que ça va être un match à la muerta, comme on dit aujourd'hui, là. Et il me donne le brassard, qui est une grande marque de confiance, et on va gagner là-bas. Je fais un gros match, tout le monde fait un gros match. Et on se qualifie, on finit le boulot derrière, on se qualifie. Je suis capitaine en Belgique juste sur la préparation de l'Euro. Donc, voilà, ça veut dire que je suis un élément.
Tu fais partie des cadres.
Ouais, je fais partie des cadres, quoi. Et on joue contre la Roumanie sur le premier match, on gagne 1-0. Ouais, je fais pas le match de ma vie, mais on fait pas tous le match. Voilà, c'est toujours difficile de rentrer dans une compétition, on fait le job, on prend pas de but. Et je sors et je joue plus jamais. Alors après, celui qui me remplace, c'est Bichette. Donc, c'était écrit que c'était Bichette dès qu'il me mettrait dehors, et il m'a mis un petit peu plus tôt que ce que je pensais. Voilà. Donc ça a été un moment difficile, surtout que j'ai jamais compris ce qui s'était passé, quoi. Voilà. Donc dans ces cas-là, tu te fais plein de films. Moi, j'ai jamais été dupe dans ce métier-là. C'est un métier où, voilà, il y a des bons moments, des moins bons moments, il y a des choix d'hommes à faire, il y a des gens qui décident, t'y aimer, pas aimer. Moi, Aimé Jacquet, le mec m'a fait bandé pendant 2 ans, voilà. Je le dis parce que il m'a permis de faire une compétition finale qui était un de mes grands manques. Il m'a donné le brassard de l'équipe de France, il m'a donné une grande de confiance et surtout beaucoup de je sentais dans son regard et quand il me parlait qu'il m'aimait énormément, quoi. Et rien que ça, c'est bon, quoi. Voilà.
Et à l'issue de ce tournoi, sachant que Bichent t'a remplacé, tu décides de tirer un trait sur l'équipe de France.
Ouais, mais
comment ça se passe, ça?
Déjà, je sentais que je commençais à être un peu au bout de, voilà, quand tu commences le matin à te lever, à avoir mal de partout, quand tu vas à l'entraînement et que tu souffres, à la fin des matchs, tu arrives même plus à aller boire un coup derrière, c'est que tu sens que c'est la fin. Donc, je sentais que je commençais à décliner à ce moment-là. Donc, j'annonce rien, quoi. Il y a Mario Albano qui est journaliste à la Provence, qui est là, qui a suivi tout l'Euro. Je suis assis dans un escalier, si je me souviens bien, dans l'hôtel. on a préparé nos bagages pour partir. La presse est là parce qu'il y a une conférence de presse. Moi, j'y vais même pas parce que j'intéresse plus personne, c'est normal. Et bon, Mario, qui est un pote, il vient me voir, il me dit alors, je dis bon, ben voilà, c'est fini quoi. J'ai porté pour une dernière fois le maillot de l'équipe de France pendant ce championnat d'Europe. Voilà, comme ça, mais c'est pas annoncé officiellement comme les mecs aujourd'hui. Les mecs, ils ont fait trois matchs, ils annoncent qu'ils arrêtent l'équipe de France. Moi, j'ai rien annoncé, j'ai dit ça dans un coin, un pote journaliste.
Autre papier dans la boîte à souvenirs avec Eric Dimeco sur RMC.
On va arriver au bout de cette boîte. Ah ben Arsène, tiens.
Arsène Wenger.
Arsène Wenger.
C'était en 1984. Arsène Wenger arrive où ?
Nancy, qui connaît désormais le nom de son futur entraîneur, Hervé Collot, démissionnaire, sera remplacé dès la saison prochaine par un Alsacien de 35 ans, Arsène Wenger.
Ce que je m'attends à trouver ici, à l'AS Nancy-Lorraine, c'est des bonnes conditions de travail que je n'avais pas à Cannes. Dans ce métier-là, il faudrait avoir énormément d'ambition et avoir l'envie surtout de monter le plus haut possible.
1984, Arsène Wenger arrive à Nancy. À ce moment-là, en 84, Éric Dimeco est à l'OM, ouais. Le minot de l'OM. Il joue, pas tout le temps, mais il joue. Ouais, mais il joue en pointe. Ouais. Et puis, en 86, un certain Bernard Tapie arrive à Marseille. Tu comprends qu'il faut forcément rester là. Tu es donc prêté à Nancy. Et là, tu découvres donc Arsène Wenger qui va énormément compter dans ta carrière.
Ah oui, gravement. Ouais, ouais. J'ai toujours... plaisir à le croiser et surtout j'ai découvert donc parce que là on l'entend, il avait donc moi quand je l'ai connu il avait 37 ans tout jeune et déjà beaucoup d'ambition et surtout déjà une idée du football précise et donc je me retrouve un petit peu par hasard à Nancy puisque tu l'as dit, Bernard Tapie venait de récupérer le club et j'ai vite compris que la politique du club allait changer et que les stars allaient arriver et c'est Aldo Platini donc le papa de Michel qui m'avait repéré sur un Nancy OM. Et d'abord, il devait récupérer Bernard Zénier, qui était un grand joueur qui jouait chez nous à Marseille et qui devait aller là-bas. Et lui avait préféré aller à Metz et c'est lui qui avait dit Aldo, mais il y a le petit que vous avez vu cette saison. Et je crois qu'il serait peut-être possible de le récupérer. Voilà comment j'arrive à Nancy, que je découvre Arsène. Jeune entraîneur avec qui j'ai passé un an formidable déjà. Enfin moi, dès que j'arrive, il me met entre les mains d'une diététicienne. Je savais même pas ce que c'était. Voilà. Et puis il était vachement carré. Et puis surtout, c'est lui qui change ma carrière, quoi. Alors lui et sûrement Gérard Bagny dont on parlera sûrement, qui était le coach de l'OM à l'époque et qui avait dû discuter avec Arsène sur ce qu'il voulait faire de moi parce que j'étais prêté. Donc du coup, mon club formateur avait quelque chose à dire. Mais c'est lui qui me fait reculer la première fois sur le terrain, quoi. Et c'est là que ma carrière a changé. Ouais.
Alors pourquoi te fait-il reculer ? Nous avons interrogé Arsène Wenger et voici ce qu'il a à nous dire.
C'était un joueur intelligent qui avait une bonne technique et qui manquait un peu de vitesse pour déborder. Et il était très motivé en plus, était bon dans le duel, il lâchait rien. Donc je me suis dit finalement, je vais essayer de le repositionner derrière parce qu'il avait un bon, super état d'esprit, il avait une bonne technique. Comme il avait un bon œil, je lui ai fait confiance. Il était très motivé en plus, était bon dans le duel, il lâchait rien. Donc je me suis dit finalement, il n'y a pas de grand risque. Devant, il me semblait un peu limité dans la créativité.
Et là, tu prends du plaisir à jouer arrière-gauche alors que tu as joué à l'Olympique de Marseille au début des années 80, avant-centre.
Ouais, j'ai vite compris à un moment donné que le football a évolué. Il y avait les ailiers à l'ancienne, à la Didier Six, qui étaient collés à la ligne et qui leur job c'était de déborder, de centrer. Le football a commencé à changer où on a commencé à jouer à deux attaquants et où quand tu étais attaquant, il fallait marquer des buts. Et moi mon gros problème, et là où je plafonnais, là où Arsène a vite compris, parce que même Arsène m'a mis quelques fois avant centre, c'est que malheureusement je marquais pas de buts, quoi. Donc je passais toujours à filer le ballon aux autres, mais moi j'ai... Et donc le fait de reculer, j'avais plus cette pression du but. Et par contre, je pouvais utiliser ma vision du jeu et mon pied gauche plus facilement parce que j'avais pas un défenseur qui était collé à mes machins.
Et donc à l'été 88, après un prêt à Nancy, un prêt à Martigues, tu arrives à Marseille. Ouais. Tu arrives dans le bureau de Jean-Pierre Bernès.
Oui.
Mais là, t'es pas sûr de rester.
Non, c'est chaud.
Qu'est-ce qu'il te dit ?
Bah, Il me dit bon, écoute, tu le club part dans une politique où il y aura peut-être pas de place pour toi, quoi. Et il me dit, écoute, si tu trouves un club, si tu as quelque chose, on sera attentif et puis on t'en mettra pas pour partir, quoi. Et donc j'avais Angers avec Hervé Gauthier, qui était un pote de Fatih Chebel avec qui je jouais à Martigues, qui était venu me voir. J'avais vivé à Aix-en-Provence à l'époque. On avait bu un café ensemble. Il m'avait dit, je te récupère à Angers. Le club était en deuxième division à l'époque. Et lui, il voulait me faire jouer attaquant, quoi, continuer à jouer attaquant. Quand je reviens de mes vacances, et c'est ça peut-être qui m'a sauvé la vie, je vais voir Jean-Pierre dans son bureau. Je lui dis, bon, c'est bon, vous êtes arrangé, je pars. Il me dit, non, tu pars pas, tu pars en Forêt-Noire. Gérard Bagnide veut te tester arrière gauche. Voilà comment ma carrière a basculé du jour au lendemain. Ouais.
La Forêt-Noire est.
La Forêt-Noire, un bel endroit pour.
Ouais.
Un meurtre.
Ouais. Exactement. Pour s'entraîner, donc en Allemagne.
Hein, ouais.
Et là, tu donnes tout. Là, t'es un mort de faim.
Ah là, je comprends très vite que c'est ma dernière chance de porter ce maillot. Et donc, tu m'aurais vu pendant ces 15 jours de stage. Écoute-moi, j'étais arrivé, je crois, qu'à un entraînement, j'ai centré et j'ai repris moi-même le ballon tellement que j'étais motivé. C'est-à-dire, je centrais pour moi-même.
Tu les as éclatés. Finalement, Gérard Bagnide, t'as gardé.
Ouais. J'ai titulaire le premier match de championnat alors que j'avais pratiquement jamais joué à ce poste.
Alors, juste avant, il y a quand même un match amical pour préparer la saison face à Auxerre. Mmh. Et là, c'est la première fois que tu rencontres vraiment Bernard Tapie.
Exactement, ouais, parce qu'en 86, il nous avait présenté pour une finale de Coupe de France, mais je ne l'avais pas côtoyé, quoi. Et puis après, j'étais parti pendant 2 ans. Et donc là, je sors de 15 jours de stage en Forêt-Noire. Je ne sais toujours pas si je vais rester. Hein. On ne m'avait pas annoncé encore. Il y avait des matchs amicaux à Auxerre, un petit tournoi, là. Et Bernard Tapie arrive, donc tout le monde en a fait moins. En tout cas, j'en avais une grande peur. Et il rentre dans le vestiaire comme ça, il dit bonjour à tout le monde et puis il s'arrête devant moi comme ça, il me dit « Alors Dimec, t'es devenu bon il paraît ?» Il m'a appelé Dimec tout de suite, il m'a appelé Dimec toute ma carrière. Et ça veut dire qu'avant j'étais une belle pompe et ça sentait bon pour moi. Quoi, voilà. Donc je crois que j'ai eu du bafouiller quelque chose, je ne sais même pas si je lui ai répondu, tellement il m'a impressionné. Voilà mon premier contact avec Bernard Tapie, mon vrai premier contact avec Bernard Tapie. Ouais.
Et ensuite, vous connaissez l'histoire, Éric Dimeco va donc cartonner avec cet Olympique de Marseille, champion dans la fin des années 80, au début des années 90, et cette finale en apothéose en 93. La boîte à souvenirs est terminée, Éric, mais l'émission n'est pas encore tout à fait terminée. On va bientôt sortir de boîte et ce sera dans quelques instants sur RMC.
RMC, la boîte à souvenirs,
la sortie de boîte.
Dimeco.
Quand on sort de boîte, on n'est pas toujours très beau. Hein.
Exactement, et en plus, tout à l'heure, il y aura un interrogatoire. Mais pour l'heure, tu vas devoir répondre à des questions des invités. On va débuter avec Arsène Wenger.
Allez.
C'est parti.
Ben moi, j'aimerais simplement lui demander s'il va bien et s'il est content de son après-carrière, surtout parce que moi, ce qui me préoccupe, il a fait une grande carrière, mais j'ai vu pas beaucoup de joueurs heureux dans l'après-carrière et lui semble quand même avoir bien négocié. Donc, j'aimerais lui demander s'il est satisfait surtout de son après-carrière. Parce que pour le reste, il peut qu'être content de ce qu'il a fait en tant que joueur.
Ouais, mais ça m'étonne pas d'Arsène parce qu'il a toujours privilégié aussi l'homme et ce qu'il le fait à côté. Alors moi, on en a parlé tout à l'heure vite fait. J'ai pas eu la petite mort de la fin de carrière et j'ai été occupé très vite parce que je me suis arrêté en 98 et jusqu'en 2008 j'ai été adjoint au maire, donc j'ai fait de la politique à Marseille. Je m'occupais des jeunes dans les quartiers. J'ai pris un pied pas possible à faire ça. Bon, mon plaisir et ma délégation, c'était de m'occuper des animations des jeunes dans les quartiers. Et donc j'ai découvert une phase de Marseille que je connaissais mal avec des animateurs de centres sociaux qui font un travail formidable, difficile, et des gamins dont pointe souvent les défauts, mais beaucoup ont beaucoup de qualités et font beaucoup d'efforts pour s'en sortir. Et j'ai pris un pied pas possible. Voilà, je me suis régalé. Ça a duré que de temps, et tant mieux, parce que j'étais pas un homme politique, j'étais pas fait pour faire de la politique. Par contre, faire du social à ce niveau-là avec un maire qui m'a donné beaucoup de moyens, donc le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, que je remercie. Et ensuite, ben, je suis tombé dans les médias par hasard. Voilà, donc c'est une grande passion. Je prends un pied pas possible tous les jours d'être à la radio et d'aller commenter les matchs. Et puis le jour où ça s'arrête, ben, je ferai autre chose. Voilà, j'aime la musique. Je me suis remis à faire de la musique avec des potes, un groupe. Là. Moi, tous les matins, quand je me lève, je remercie le Seigneur. Ouais.
Autre question. Gérard Rouillet a quelque chose pour toi.
Eric, est-ce que tu aurais aimé être un jour entraîneur ?
Aïe, aïe, aïe. On y pense quand on s'approche de la fin de la carrière. Mais j'ai très vite compris que j'avais pas la fibre pour être entraîneur. Que pour être entraîneur, il fallait avoir une vraie passion pour ce métier-là. Et pour la plupart, pour la grande majorité, ce sont des garçons qui étaient prédestinés à faire ça, quoi.
Ta fille, Ilona.
Ah.
Papa, est-ce que tu peux maintenant avouer au grand public que si tu es double champion du monde du Kikadi, c'est grâce à moi qui t'ai donné les réponses pendant des mois et des mois.
Qu'est-ce qu'on rigole avec ça? Non, mais ma fille, elle est venue en stage pendant deux mois ici à RMC. Et comme elle sait qu'on est tombé dans une connerie avec ce Kikadi, avec Vincent, où c'est la guerre maintenant, mais elle rigolote, quoi. Et donc, elle allait piquer les réponses. Quand elle était là en stage, elle allait piquer les réponses. Elle me les envoyait par texto. Alors, qu'est-ce qu'on a rigolé avec ça et tout. Bon, voilà. Non, mais après, par contre, sur les championnats du monde qui sont télévisés aujourd'hui sur RMC Sport.
Là, il n'y a pas de triche.
Là, c'est possible. Il n'y a pas d'aide technologique et tout. Tout le monde a vu que j'étais très, très au-dessus de toute cette bande de pompes qui me sert de coéquipier du Moscato Show, quand même.
Ok, la vérité, ta vérité en tout cas, vient d'être rétablie. Mais tu le sais, on sort de boîte actuellement et on peut vite passer à un interrogatoire. L'interrogatoire avec Eric Dimeco dans sa boîte à souvenirs. Quel joueur était plus méchant que toi?
Oh bah alors là, il n'y a pas de discussion possible, Carlos Moser. Carlos Moser, c'est un truc de dingue. Ouais, ouais. Il a fait peur à beaucoup, beaucoup d'attaquants.
Quel est le joueur que tu préférais tacler?
Bon, David Ginola, qui est quand même mon adversaire, qui a été mon adversaire préféré, qui est un pote aujourd'hui, qui a toujours été un pote d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il était tellement fort et il queenait tellement bien que je me suis régalé.
Quel est ton meilleur entraîneur?
Ben, mon meilleur entraîneur, moi j'ai toujours une reconnaissance particulière en Gérard Banide qui
m'a fait décoller à l'OM.
Ouais, puis qui m'a fait revenir pour faire ce fameux stage et qui m'a permis d'être international derrière. Arsène aussi, qui est important, mais moi j'ai une affection particulière pour Gérard Banide, qui était un grand coach en plus et qui a beaucoup révolutionné le monde des coachs, notamment des séances d'entraînement.
Ton pire entraîneur?
Alors le pire entraîneur, non, il n'y a pas de pire entraîneur. Par contre, celui qui m'a fait le plus souffrir et que j'ai renié pendant des années quand j'étais au centre de formation, c'est Gérard Gilly, qui a été mon entraîneur aussi à l'OM en pro derrière, qui m'a fait faire des tours de Parborelli où j'étais pas un gros physique. Et putain, qu'est-ce qui m'a fait souffrir sur les séances ad hoc. Je l'ai insulté plusieurs fois sur ces séances d'entraînement physique, notamment du lundi matin, qui était terrible.
Le joueur le plus surcoté avec qui tu as joué?
Surcoté?
Ouais.
Oh merde. Ouais, Basile, parce qu'il avait deux pieds de cochon à la place des pieds. Ouais, non, ça me déconne.
Basile.
Il avait deux pieds de cochon, c'est dingue. Il a joué au foot avec deux pieds de cochon. C'est surcoté, non?
C'est bien surcoté.
Je t'embrasse, mon
Basile. Évidemment, c'est le joueur emblématique aussi de l'Olympique de Marseille avec
ses pieds. Oui, mais il a marqué de la tête.
Exactement.
Oui, il n'a pas marqué des pieds.
La dernière fois que tu as pleuré, Eric?
Oh putain, alors là ça fait... Alors moi je regarde un truc à la télé, je pleure. Donc la dernière fois que j'ai pleuré, c'est... J'ai regardé un film sur Netflix qui s'appelle First They Kill My Father, qui est un film sur l'ascension de Pol Pot et des Khmers au Cambodge, là. Et j'ai chialé comme un minot, quoi. Ça m'a pris aux tripes et derrière je suis allé regarder toute l'histoire de cette gamine là qui vit aux États-Unis derrière et tout. Donc allez voir ça sur Netflix, c'est merveilleux.
Ton plus beau moment d'antenne?
Alors c'est rare parce que j'aime pas trop me réécouter, mais là quand j'ai pas le moral, c'est rare, je me mets le débat qu'on avait fait dans le Moscato Show sur la possibilité de voir la pétanque aux Jeux Olympiques. Voilà, ça me fait rire. Voilà. On est con, mais qu'est-ce que ça me plaît d'être con, et ça me fait rire.
On a pensé évidemment à ce moment, mais vu qu'il dure 15 minutes, on n'était pas là pour ça. Pour nous, Eric Dimeco, c'est aussi ça, c'est forcément du Kikadi, c'est forcément du pétage de plomb.
En 1980, Bernard Hinault est champion du monde dans quelle ville? Ça commence par un S.
Serge Chevalier?
Non.
Ah, Salange.
Salange, c'est moi.
Je me suis repris. Allez, arrêtez-vous. Bon, allez, je me casse. Je me suis repris de suite. Arrêtez-vous.
On me dit qu'Eric s'est repris avant. Point accordé à Eric Dimeco.
Non, c'est bon, j'ai fait l'apéro. Quelle heure il est? 17h44. Ça fait deux mauresques de plus. Allez, ciao les gars.
Et voilà, il a souvent quitté le plateau, Eric Dimeco.
Non, mais là, récemment, j'étais chez moi, ils m'ont pas vu. Je me suis énervé, j'ai pris mon casque parce qu'on a un Scoopy avec un casque. Je l'ai tiré dans la maison, je suis parti et j'ai quitté l'antenne. Donc, ce jeu nous rend fous, on est devenus cons à force de jouer à ce jeu. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on s'amuse.
Merci beaucoup, Eric.
Mais c'était un plaisir. Bravo, les gars. C'était gros travail. Vous avez trouvé quand même. Content d'écouter Arsène, Gérard, tout ça, Jean-Pierre, Jean-Christophe et tout. Bravo. Merci. Merci.
Grand en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir avec nous dans cette boîte à souvenirs. Demain, Brahim Asloum ouvrira à son tour la boîte à souvenirs à partir de 20h. Un grand merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Pierre Amiche, notre producteur, Suzanne Folli à la réalisation et Arthur Perrault, notre journaliste. Eric, tu as commencé cette émission, donc tu vas la clore, c'est à toi. Tu peux parler aux auditeurs qui t'ont écouté, raconter ta vie ce soir.
Bah déjà, bonne fin d'année, bonne nouvelle année. Continue à nous écouter, voilà. Merci parce que je l'ai dit en présentation de cette émission. Moi, je suis pas un fou, hein, j'aime pas trop parler de moi. Et là, ça m'a permis de revenir. Il y a eu des moments un petit peu sympathiques. Là, ma fille qui vient me parler à l'antenne. Voilà. Et puis, ça m'a permis aussi d'aller trifouiller un petit peu dans ma mémoire parce que j'ai vite passé après ma carrière justement. Et j'ai fait en sorte d'oublier un petit peu tout et de pas trop revenir sur le passé parce que des fois c'est douloureux ou c'est émouvant. Voilà, donc merci les gars parce que c'est une bonne initiative. Ça fait un moment qu'on bosse ensemble et je sais pas qui a eu l'idée de faire ça. J'ai hâte d'écouter les émissions de mes potes parce que je pense que je vais apprendre des trucs qu'on connaît pas, qu'on se côtoie tous les jours. Donc merci les gars, bravo pour le boulot parce qu'il fallait aller choper tous ces gaillards là parce qu'il y a des drôles de personnalités là que vous êtes allés choper. Merci, je me suis éclaté.
RMC, la boîte à souvenirs.